La notion de soutien, qui est omniprésente, en fait, elle est omniprésente depuis quasiment une quarantaine d'années, puisqu'on la voit apparaître à partir de 1975 de manière forte dans la création du collège unique. Si on prend l'idée au sens propre, je crois que c'était un peu le sens de l'introduction de Patrick Picard, c'est quoi? C'est l'idée d'un appui à quelqu'un, quelque chose pour l'empêcher de tomber. Si je le prends comme ça, effectivement, la plupart des actions que nous menons pour les élèves en difficulté, ou susceptibles de l'être, sont bien effectivement du soutien. Mais sauf que si on regarde plus finement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une notion, on la travaille à trois niveaux, et que les niveaux se chevauchent, et que du coup on y voit plus très clair. Parce qu'en fait, le soutien, c'est à la fois cette posture, et donc là on est dans une attitude qui relève de ce qu'on appelle l'aide, mais en fait le soutien, ça désigne aussi plein de dispositifs pédagogiques institués. Et là, on pourrait faire la liste depuis 40 ans, il y a eu un paquet de choses. Je partage ce qui a été annoncé ce matin, c'est-à-dire qu'on est dans des systèmes où en fait, on ne fait pas complètement le bilan des pratiques, mais par contre, on crée sans cesse de nouveaux dispositifs. Et le chercheur en capacité de nous faire la liste exhaustive des dispositifs d'aide, de soutien depuis 40 ans, a beaucoup de travail. J'essaie de m'intéresser à ça, j'en découvre encore au détour d'un texte d'archive. Tiens, ça existait, ça, à telle époque. Bon. Donc on a cette logique, il y a plein de dispositifs appelés soutien. Et après, il y a une définition finalement plus restrictive qui est une forme particulière de pédagogie qu'on appellerait la pédagogie de soutien. Et je crois que dans les salles des profs, quand on parle de soutien, c'est rarement de la dynamique globale, de la posture, on parle de la pédagogie de soutien, ce qui renvoie nos actions à des choses finalement assez restreintes. Alors, je vais revenir dessus, mais je vais prendre un exemple. Moi, je travaille un peu dans le primaire. Vous savez qu'en 2008, il y a eu la création de l'aide personnalisée. Comment est-ce que les familles en parlent? Comment est-ce que les instituteurs en parlent? Je fais exprès de dire instituteur, moi, j'aime bien ce mot. Ce soir, j'ai soutien. C'est-à-dire que globalement, très vite, le dispositif qui était, et quand on lit le texte, qui était très ouvert et qui pouvait laisser en la possibilité d'autres actions relevant d'autres dynamiques, ont été ramenés par les personnes elles-mêmes, parce que c'est le vocabulaire qu'elles utilisent, à l'idée d'une reprise scolaire. Alors pourquoi je dis que le soutien, c'est une reprise scolaire? Alors, j'ai fait un joli schéma là, avec Smart Art. C'est l'idée globalement qu'un même mot, il y a des strates, et qu'en fait, il y a bien la strate sur le soutien d'une visée pédagogique de rattrapage. Et je crois que quand on parle dans les institutions de soutien, c'est de ça qu'on parle la plupart du temps. Une strate plus globale du soutien comme dispositif, et une strate encore plus globale, le soutien comme dynamique d'appui et d'aide, où là, d'une certaine manière, on pourrait dire que tout ce qu'on fait est du soutien. Bon. Alors, il faut que j'avance. Voilà. Donc, Philippe Pernoud, qui est un chercheur suisse, a travaillé pas mal au début des années 90 sur la question de la différenciation pédagogique. Et par exemple, tous ces travaux-là montrent que les pédagogies de soutien s'opposent d'une certaine manière à l'idée de différenciation pédagogique. Parce que dans les pédagogies de soutien, il y a une idée assez forte, c'est l'idée d'une externalisation d'aide qui se jouerait en dehors du moment scolaire, du moment de l'apprentissage, avec des intervenants distincts ou pas du maître de la classe, ça pourrait se discuter aujourd'hui avec les nouveaux dispositifs, mais une forme d'aide qui joue sur la reprise scolaire, et là c'est Michel Perraudeau. J'aime assez la définition de Michel Perraudeau, puisqu'il propose de ne parler de soutien que pour une forme pédagogique, c'est quand on travaille sur le constat d'une lacune, d'une difficulté, et à un moment donné, la reprise comme dynamique de soutien, à un rythme plus lent, avec des effectifs réduits, un contenu simplifié. Mais par contre, dans une forme pédagogique qui reste le même cheminement d'apprentissage que le cheminement global. Alors, à ça, on pourrait rajouter, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais les travaux de Bayet et Chardon sur la lecture qui s'étaient mis à distinguer, je trouve la distinction intéressante, dans cette idée de soutien comme reprise, le fait qu'il y ait quand même deux voies du soutien, une voie qui serait plutôt dans le renforcement, autrement dit le maintien de la forme pédagogique initiale, et une voie qui serait plutôt dans le contraste, autrement dit, le fait d'aller travailler sur d'autres formes pédagogiques. Si je prends toujours mon exemple d'aide personnalisée en primaire, on a vu quoi dans pas mal de lieux? C'est soit des collègues qui se sont mis à faire du soutien renforcement en reprenant, en renforçant ce qui se jouait dans la journée de classe dans les formes pédagogiques, mais aussi une explosion de la vente de jeux qui ne sont pas des jeux, mais des exercices à connotation ludique, pour faire du contraste, mais en maintenant les objectifs curriculaires et en maintenant les objectifs d'apprentissage. Donc en fait, ce que je vais essayer de montrer, c'est que le soutien, ça renvoie à cet imaginaire-là. Et quand on emploie le mot soutien dans les institutions, moi je fais l'hypothèse que c'est de ça qu'on parle. Et du coup, si on parle que de ça, il y a peut-être d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément. Alors, c'est Jean Roussel qui est le plus dur avec la pédagogie de soutien. Donc là, je vous ai mis une citation qui est un petit peu longue, mais j'aime bien surtout la fin. C'est-à-dire, ce que Roussel montre, c'est que cette entrée sur l'aide, la reprise scolaire, a des fonds idéologiques et renvoie à des modèles pédagogiques. Quel modèle pédagogique de la directivité, que lui opposerait à la non-directivité? Quel modèle de l'externalisation contre la différenciation? Et donc il a situé exactement un peu comme Perraudeau, c'est-à-dire reprendre les apprentissages de base à l'aide d'un surplus de temps et d'explications destinées aux élèves en difficulté, répétition d'éléments du programme jugés indispensables à acquérir, et l'idée du rattrapage. Par contre, il rajoute une petite phrase, Jean Roussel, mais pour ceux qui le connaissent, c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime bien, d'une certaine manière, provoquer, dit qu'en fait c'est une pédagogie du rattrapage et de la bonne conscience. Ou autrement dit, quand on a mis en place du soutien, on a bien mis en place quelque chose. La question est de savoir l'efficacité de cette entrée sur les... Et je crois que c'est ce que j'entendais un peu dans les propos de M. Dupont tout à l'heure, que je partage. C'est-à-dire qu'au bout de quasiment 40 ans de pratique où l'entrée dominante sur toutes ces questions est cette pédagogie de soutien de rattrapage, si on regarde nos résultats dans PISA, si on regarde le quantitatif peut nous... me paraît aussi intéressant, bien, on voit bien qu'on ne peut pas considérer que ce modèle aujourd'hui est satisfaisant. On a aussi tout un tas de travaux, de comparaisons entre des élèves bénéficiant de ce type, moi je pense à la thèse de Céline Piquet par exemple sur le périscolaire, où de manière assez surprenante, on peut constater que pour certains élèves, le fait d'avoir du soutien dans le périscolaire les amène à avoir des résultats moins bons que certains qui n'en ont pas. Alors, c'est pas, on est sur des enquêtes, il faut faire attention sur les conclusions, mais en tout cas, ça interroge sur le fait que, ce que moi j'appelle ça le apprendre, ça va vous rappeler quelque chose, quoi, le travailler plus pour apprendre plus, ça peut marcher, mais c'est pas du tout garanti que ça fonctionne. En tout cas, on ne peut pas être, nous, et je crois que c'est là que c'est intéressant qu'on ait des journées comme ça, être dans la croyance que ça fonctionne de manière systématique et qu'il suffirait de mettre en place une pédagogie de soutien pour qu'il y ait de l'apprentissage. Alors, deuxième élément, c'est que du coup, quand on regarde notre système, on a d'autres dispositifs qui ne s'appellent pas soutien, qui s'appellent aide. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est juste une variation sémantique? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Alors moi, je viens des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté en primaire. J'ai envie de dire que là, ce qu'on appelle aide dans le champ du primaire, effectivement, on trouve des dynamiques qui ne relèvent pas de la pédagogie de soutien. Si on prend des pratiques, ce qu'on appelle la rééducation, ou les aides spécialisées, pour ceux qui connaissent, c'est plutôt ce qu'on appelle les maîtres E. On est bien au sens générique dans une intervention de soutien comme un appui dans une visée d'assistance. Mais par contre, on est sur des pratiques qui sont souvent plus ouvertes sur le sujet, c'est-à-dire qui vont le prendre en compte dans toutes ses dimensions, à partir d'où il en est, et moins centrées sur les questions directement d'acquisition scolaire. Si vous voyez des aides spécialisées en primaire, l'objectif d'acquisition scolaire n'est pas premier. Il est pensé comme étant une conséquence, une résultante d'une remobilisation de l'élève ou d'une restructuration de ses compétences cognitives. Donc, dans les dispositifs sous le nom d'aide, on a des choses qui relèvent de la pédagogie de soutien, ce qui va se retrouver, je crois, effectivement, si je prends ce que je connais de l'aide personnalisée en primaire ou de l'aide individualisée en collège, me semble relever essentiellement de la pédagogie de soutien, et là, aide-soutien, c'est la même chose. Mais il faut aussi se dire qu'à travers ce terme, on trouve des pratiques pédagogiques un peu différentes. Bon. Donc, je ne sais pas, j'ai essayé de tenir mon temps, c'est dur, mais s'il y en a qui veulent réagir, hein, comme disait Patrick Picard, moi, ça ne me dérange pas qu'on puisse éventuellement échanger sur cette question, si elle vous... sur cette entrée sur la question. Mais à 120 dans une salle, en général, je ne m'inquiète pas. Oui, allez-y, oui.
J'ai juste une question, parce que dans votre discours, vous posez que le soutien n'est pas forcément efficace.
La pédagogie de soutien reprise, voilà. Oui.
Mais là, vous venez de dire que peut-être ce que fait les maîtres, ça fonctionnerait mieux. Qu'est-ce
Je pense pas avoir dit que ça fonctionne forcément mieux. Ce que je dis, c'est que c'est une autre entrée sur la question de l'appui, ce que je vais appeler tout à l'heure étayage. Et donc, on peut faire l'hypothèse que ça serait une piste qui pourrait avoir d'autres effets. Bon, après, ce qui me permet de dire ça, je ne vais pas botter complètement en touche, hein. Moi, ce qui me permet de dire ça, c'est aussi, j'étais moi-même maître E pendant des années, je considère qu'avec ce type d'entrée, sur des observables, mais qui ne sont pas des observables d'acquisition scolaire directe, qui sont des observables de remobilisation des élèves, qui sont des observables de remise en situation, de participation dans la classe, mais aussi des observables de stratégie, de reconstruction de stratégies efficaces pour apprendre. Oui, on est dans des observables de type qualitatif dans ces entrées. On n'est pas dans des observables quantitatifs. À ma connaissance, sur les aides spécialisées en primaire, notamment, il n'y a aucune étude de type quantitatif dont je pourrais reconnaître une validité scientifique qui montre que c'est plus ou moins efficace que la pédagogie de soutien. Donc on est bien dans des projections, mais d'une certaine manière, c'est ça notre problématique. C'est que sur ces entrées, on a très peu d'études globales. Nous sommes dans un monde de croyances, j'ai envie de dire, pour résumer mon point de vue. C'est-à-dire qu'on est bien dans des hypothèses, mais le problème, c'est quand on fait fonctionner des hypothèses comme des faits. Et je crois que là, on parlait de politique publique, là il y a un enjeu à bien resituer ce qu'on sait sur l'efficacité de ces choses-là. Et c'est-à-dire pas forcément grand-chose. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est essentiellement dans des approches de type qualitative. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Bon, voilà. Alors, oui.
Moi, je voudrais juste rajouter en tant que maître E. A contrario, effectivement, on n'est pas dans une dynamique vers les acquis scolaires, mais on demande malgré tout des évaluations de notre travail par rapport aux acquis.
Voilà.
Alors, c'est... Donc, on est dans quelque chose.
C'est-à-dire que, je ne sais pas si tout le monde a entendu, c'est l'idée que, y compris là, sur des pratiques, comme je disais, d'aide, mais qui ne seraient pas, pour les professionnels qui les mettent en œuvre, dans des visées d'acquisition scolaire directe, ce qui se discute, hein, c'est pas là, on est dans... Mais l'institution elle-même est dans une logique aujourd'hui, dans l'institution scolaire, de réfléchir l'efficacité des choses, de mon point de vue, quasiment uniquement à travers le prisme des performances scolaires à court terme. Ce qui pose un autre problème dans l'évaluation de ce qu'on produit, puisque le temps de l'apprentissage n'est pas le temps de l'enseignement. Le temps de l'enseignement, on le maîtrise, le temps de l'apprentissage chez l'élève, non. C'est quelque chose qui va. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a tout un tas de catégories d'aide qui ne renvoient pas directement aux acquisitions scolaires. Donc les évaluer leur efficacité par les performances scolaires à court terme, ça peut paraître assez surprenant. Et c'est vrai que c'est pourtant ce qui se passe, en tout cas, ce qui s'est renforcé depuis une quinzaine d'années dans le système scolaire français. Voilà. Donc, je vais continuer sur ce qui, moi, m'apparaît comme une logique vraiment radicalement différente. Et pourtant, c'est un terme qui est arrivé depuis une dizaine d'années pour remplacer les termes de soutien et d'aide. Autrement dit, vous êtes en lycée professionnel, vous devez faire de l'accompagnement personnalisé. Vous êtes dans un collège, une école primaire, vous devez faire de l'accompagnement éducatif. Dans le périscolaire, vous faites bien entendu de l'accompagnement scolaire ou de l'accompagnement à la scolarité. C'est-à-dire, ce mot d'accompagnement est arrivé globalement depuis 10-15 ans comme venant se substituer dans beaucoup de dispositifs au mot soutien ou au mot aide, perçu peut-être comme étant trop stigmatisant, on peut faire ce genre d'hypothèse. Or, mon point de vue est qu'il faut prendre le mot accompagnement au sérieux. Donc c'est ce que j'essaye de faire, parce que je crois que le mot accompagnement, lui, est porteur d'une rupture relativement radicale de posture pédagogique si on le prend au sérieux. Pourquoi ? Parce que la dynamique d'accompagnement elle-même, alors on a comme pour le soutien à peu près... on peut distinguer une logique globale des domaines et des dispositifs pédagogiques, c'est-à-dire le terme accompagnement, il renvoie vraiment à des questions sociales. Chez Pôle emploi, vous faites de l'accompagnement, dans ton travail social, tout le monde est accompagnateur, ce qui fait que d'ailleurs, la plupart des travaux sur l'accompagnement ne viennent pas du tout des questions scolaires, mais viennent essentiellement des questions de formation pour adultes, ou si vous êtes intéressé par ces questions, il y a des auteurs de référence comme Michel Vial, comme Guy Le Bouédec, ou comme Maëlla Paul, je citerai un peu, on est sur des travaux qui portent sur vraiment la dynamique d'accompagnement global dans le travail social, dans la formation des adultes. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre ces travaux-là et de regarder en quoi ils nous permettraient de regarder autrement ce que nous faisons, nous, dans le champ scolaire. Donc, des dispositifs pédagogiques d'accompagnement, aujourd'hui, on en a beaucoup depuis les années 2000. Et puis, je vais aussi défendre l'idée qu'il y ait, si je le prends au sérieux du point de vue pédagogique, il y a des démarches pédagogiques que je pourrais considérer comme relevant de l'accompagnement, ce que je vais appeler au sens littéral et au sens restreint. Alors, si on prend l'étymologie du terme accompagnement, alors moi, je m'appuie vraiment sur les travaux de Maëlla Paul. Si on prend ce type de travaux, c'est l'idée que derrière le mot accompagnement, il y a une posture qui consiste, alors dans compagnon, partager le pain, avec, c'est ce qu'on pourrait appeler accompagnement, c'est des situations dans lesquelles il y aurait une forme d'apprentissage dont le être avec et aller vers sur la base d'une valeur symbolique, celle du partage. Autrement dit, dans l'accompagnement, il y a de l'asymétrie, mais il y a une relation en même temps d'échange réciproque et mutuel d'apprentissage. Et en fait, ce qui résumerait le mieux l'accompagnement, c'est l'idée de cheminer ensemble pour apprendre. Et si je me mets à raisonner la question d'aider, de faire appui aux apprentissages, non plus du côté du soutien, je vais y revenir après, en extériorité, mais du côté de penser les choses en cheminant avec les élèves, dans une relation relativement réciproque d'échange et d'apprentissage, il me semble que par rapport à l'histoire de la forme scolaire, des formes scolaires, parce qu'il n'y a pas qu'une forme scolaire, mais des formes scolaires dans le système français, on est sur quelque chose de radicalement, subversif. Puisqu'en fait, ce qui marque, de mon point de vue, la plupart des relations, c'est une relation de type hiérarchisé, de tutelle, entre l'enseignant et l'élève. C'est pas du tout la posture égalitaire qui domine dans les formes scolaires. Et si je prends au sérieux le mot accompagnement, du coup, ça peut jouer complètement sur les postures pédagogiques. Parce que je me mets à regarder les choses, non plus du côté, comme on le fait globalement, du côté du curriculum, autrement dit du programme d'acquisition vers l'apprenant, mais je me mets à regarder les choses à partir du sujet lui-même en train d'apprendre, ce qui me change un petit peu, mon regard. Je me positionne, alors pour ceux qui connaissent le triangle pédagogique de Jean Housset, qui distingue trois processus, le processus enseigné, qui serait globalement le processus de la transmission descendante, forme de transmission, le processus apprendre qui serait globalement le processus des méthodes de type active avec un adulte qui se positionne en médiateur d'abord, et puis le processus formé pour lequel la relation éducative elle-même est un élément de l'apprentissage, au risque par contre, pour ceux qui connaissent le modèle de Housset, à chaque fois d'oublier en route un élément essentiel dans le processus formé pour être les contenus. Globalement, là on est vraiment du côté du processus apprendre et du processus formé dans l'idée d'accompagnement. Et l'idée de l'accompagnement nous renvoie, de mon point de vue, à prendre au sérieux, à vraiment essayer de mettre en place les entrées par les méthodes actives. Mais les méthodes actives au sens initial du terme, comme on l'entend chez quelqu'un comme Dewey, toute leçon doit être une réponse à une question qu'on s'est posée, apprendre en faisant, ou chez Cousinet, c'est-à-dire prendre au sérieux le fait que le sujet lui-même doit être au cœur de ses apprentissages. Alors, si je vais plus loin, moi il me semble que c'est subversif d'aller sur ce genre de choses parce que faire avec et à côté d'eux et non pas devant, ça nous distingue de notre tradition qui est une tradition du guide, ce que j'appellerais le guidage en extériorité. Un enseignant est d'abord un guide dans notre modèle. C'est celui qui sait, c'est celui qui organise les situations d'apprentissage et qui montre le chemin. Passer au paradigme de l'accompagnement, ça supposerait de penser des situations un petit peu autrement. Deuxième élément, ça nous renvoie à une autre question, j'entendais un peu, qui pour moi me parle beaucoup, c'est de savoir si on peut se permettre, je pense à des discussions que j'ai souvent avec des collègues enseignants, savoir sur quoi repose le travail, le métier. On travaille avec l'élève ou avec l'élève-enfant ? Pas exactement la même chose. Et il n'est pas rare, vous devez connaître ça comme vous, qu'on m'explique que non, c'est normal qu'il y ait un cloisonnement entre, d'un coup, l'école qui travaille sur la part élève et la part enfant relèverait d'autres espaces éducatifs, la famille, les loisirs. Alors, si je prends au sérieux ce type d'entrée, je crois qu'on peut plus, on peut pas faire semblant dans ce type d'entrée de se dire qu'il y a une part élève qui serait dissociée de la part enfant. C'est bien une personne globale qui est là. Et combien de fois la part enfant vient, comment dire, faire obstacle à l'apprentissage de l'élève? Pour plein de raisons, enfin, dans toutes les dimensions. Donc en fait, là, il y a une question derrière, c'est de savoir si, dans ce type d'entrée, on se permet d'aller jusqu'à l'enfant derrière l'élève. Et aujourd'hui, je suis dans ce questionnement-là. Dernier élément de questionnement là-dessus, c'est la place de la décision. C'est-à-dire, si on prend au sérieux l'idée de l'accompagnement, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que les apprenants eux-mêmes aient des espaces dans lesquels ils prennent des décisions, et pas seulement des choix. Ce qui nous renvoie à un vieux débat en éducation sur la question de l'autonomie et de l'émancipation. Là, c'est pas non plus très nouveau. Mais la question de l'accompagnement, de mon point de vue, si je prenais au sérieux ça, nous renvoie à savoir, dans nos espaces, à quel moment on a des élèves qui sont en capacité de se positionner, eux, par rapport à leurs apprentissages, et de prendre des décisions concernant ce qu'ils font. Là encore, il me semble que notre tradition de forme scolaire nous interdit de poser ce genre de questions, puisque nous sommes dans des espaces dans lesquels les élèves n'ont pas, à part dans quelques pédagogies un peu alternatives, n'ont pas à décider, n'ont pas à se positionner. Il me semble que, en effet, miroir, ce que j'essaie de montrer à travers l'accompagnement, c'est que tout ça, ça pourrait être peut-être une piste à réfléchir, enfin, porteur de pistes à réfléchir sur savoir comment. Alors, je vais prendre mon exemple toujours sur l'aide personnalisée en primaire, si ça vous parle un peu. Moi, ce qui m'a, quand l'aide personnalisée est arrivée en primaire, je faisais partie de ceux qui défendaient l'idée qu'il ne fallait surtout pas faire de la reprise scolaire. Mais par contre, il y avait tout un tas de choses intéressantes à faire du côté du positionnement des élèves. C'est-à-dire, on verra après, des espaces dans lesquels ça serait intéressant qu'on s'arrête simplement avec les élèves pour discuter avec eux de ce qu'ils ont produit, de pourquoi ils se trompent, de quelles sont les attendus du scolaire, de où on veut aller, pourquoi ils sont là. En tout cas, tout un tas de questions qui les renvoient eux-mêmes comme sujets dans un lieu d'apprentissage. Je crois que je parlais très fort, donc je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'endroits où l'aide personnalisée en primaire soit transformée dans ce genre de choses, mais je reste convaincu aujourd'hui que l'idée de travailler l'accompagnement, ça suppose d'aller sur ce type de questions-là. À quel moment dans les espaces scolaires on propose aux élèves de se positionner, par exemple? Il me semble qu'aujourd'hui c'est une vraie question. Et qui nous renvoie à autre chose. Alors, bon. Alors, pour résumer, si vous êtes intéressé par ce genre de questionnement, je crois que Michel Vial a fait des travaux vraiment très intéressants, et en fait montre qu'une opposition entre lui, ce qu'il appelle l'approche par le guidage, j'ai envie de dire que la pédagogie de soutien, les approches de l'aide classiques sont plutôt de ce côté-là, et les pédagogies qui participent de l'accompagnement. Alors là, il faut tout de suite se méfier, parce que nous avons une forte tendance à choisir des camps. Et je ne voudrais surtout pas qu'on entende mes propos comme ça. Mon point de vue, c'est qu'on est dans des postures différentes, et que ce qui fait un pédagogue, c'est sa capacité à utiliser ces différentes postures à différents moments en complémentarité. Donc ce n'est pas l'accompagnement contre le guidage, c'est le guidage et l'accompagnement. Mais par contre, ce type de posture et ce type de dynamique n'ont d'intérêt que si les pédagogues sont en capacité de savoir ce qu'ils font au moment où ils le font. Parce que la relation éducative du guidage n'est pas du même registre que la relation éducative de l'accompagnement. Je ne sais pas si je suis très clair, mais mon point de vue est que tout ça, c'est complémentaire. Mais par contre, si je prends la situation actuelle, c'est qu'en fait, le pôle guidage est surdimensionné aujourd'hui dans les espaces scolaires, et le pôle accompagnement, on peut se questionner sur la place qu'il peut avoir. Alors, pour avancer un petit peu là-dessus, du coup, moi, je pense qu'aujourd'hui, parler de soutien, comme on le fait souvent, pose un vrai problème sémantique. Et c'est pour ça que je préfère aujourd'hui parler d'étayage. Parce que le mot étayage est beaucoup moins connoté, en fait. L'étayage est une forme de soutien au sens générique, c'est-à-dire un appui aux apprentissages. Alors, c'est un terme qu'on trouve d'abord chez Freud, dans un sens très, très particulier, mais en fait, c'est surtout le psychologue Brunner qui l'a remis en évidence. Avec, quand on lit Brunner, quand il parle d'étayage, il y a plein de moments où c'est équivalent au terme de soutien, pour être clair. Brunner est connu pour, on n'aura pas le temps de le développer, tout le processus d'interaction de tutelle, les différents pôles de la tutelle, qui est vraiment un travail très intéressant. Mais en fait, on pourrait parler de l'étayage autour de, chez Brunner, de tous les éléments d'ajustement des conditions d'une tâche constituant un appui pour l'apprenant. Donc Brunner est un psychologue très proche de l'entrée de Vygotsky. Et en fait, pour Brunner, l'étayage, c'est tout ce qui va se jouer dans les aménagements, les interventions dans la zone proximale de développement. Pour parler des gros mots, quoi. Mais moi, il me semble aujourd'hui, alors j'aime bien Brunner, qu'on peut élargir la question de l'étayage en la reprenant aussi à son sens plus étymologique. Autrement dit, ça serait tout ce qui pourrait faire appui aux apprentissages. Et en ce sens-là, moi, il me semble, je vais essayer d'accélérer un petit peu, voilà. Ça va, je suis à peu près dans le temps. Non, mais il me reste 40 diapos. Hein.
Non,
c'était une blague. Dans cette question de l'étayage, il me semble que si on le prend au sens tout ce qui fait appui aux apprentissages, finalement, ce que je viens d'écrire comme la logique du guidage dans le soutien, dans l'aide, la logique de l'accompagnement, tout ça sont des formes d'étayage. Et sont des formes d'étayage qui permettent de penser avec souplesse les interactions avec les élèves. Donc moi, il me semble qu'on aurait intérêt aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait en partie dans cette équipe de recherche, à discuter, à rentrer par l'étayage, parce que ça change notre regard. Ça nous oblige à nous poser la question de l'élève-enfant, ce que je disais un petit peu. Ça nous oblige à penser en termes d'appui pour les apprentissages. Et finalement, quand on a pas mal d'entretiens avec des collègues enseignants, et on se rend compte, si on fait une analyse un petit peu, dès qu'on parle d'aider les élèves, on peut parler très souvent de donner plus, voire même parfois de renforcement. On pourrait parler à certains moments de penser du gavage. Là où il me semble que se raisonner en termes de qu'est-ce qui fait appui, et c'est l'idée de notre projet de recherche, je crois, nous permet tous professionnels de repenser à nouveau frais ce qu'on est en train de faire. Et en ce sens-là, rentrer par la question de l'étayage me paraît aussi intéressant. Et donc, du coup, avec sa conséquence, c'est de dépasser la stricte reprise scolaire. Bon, ça, je vous le passe. Alors, dans cet étayage, moi, ce que je travaille aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut faire appui. Donc là, je vais passer dans une deuxième dimension. Et il me semble que ce qui peut faire appui relève de trois dimensions. Premier élément, c'est celui auquel on pense de manière assez évidente et classique. Ce qui peut faire appui, c'est l'intervention elle-même pour le développement du sujet. Donc c'est tout ce qui va être les interactions éducatives. Mais il ne faut pas oublier, si on est dans un cadre même vygotskien, qu'il y a deux autres dimensions qui existent. C'est que aménager le cadre, c'est aussi, d'une certaine manière, construire des formes d'étayage. Et que là, c'était ce qui s'est joué dans beaucoup de tentatives d'innovation pédagogique, c'est-à-dire penser l'espace scolaire différemment, penser l'espace pour qu'on puisse y être autonome, penser l'espace pour qu'on puisse y avoir... Là, il y a tout un tas de leviers qui font partie de cette logique de l'étayage. La troisième étant l'idée de l'étayage, ça renvoie à la question des ressources qu'on met à disposition de nos élèves. Et si je file ça, alors là, on n'a pas le temps ce matin, mais je pense qu'on pourra en discuter pendant les deux jours. Bon, il me semble notamment, par exemple, que les espaces scolaires sont relativement pauvres et que tout se joue comme si l'étayage ne pouvait passer que par, d'un côté, le support, autrement dit le travail qu'on donne aux élèves, et puis la possibilité d'interaction avec un adulte dans une pensée que moi j'appelle une pensée préceptorale, c'est-à-dire l'idée qu'il ne peut y avoir apprentissage que s'il y a un étayage par un adulte, l'enseignant, tant qu'à faire. Hein, bon. Et par contre, quand on va regarder, donc moi je travaille aussi beaucoup sur la pédagogie freinée, quand on va regarder des pédagogies alternatives, on se rend compte que dans cette dimension-là, on utilise par exemple le tutorat entre pairs, ce qui permet de repenser complètement cette dynamique d'étayage. Quand je suis dans le tutorat entre pairs, je sors de la logique préceptorale et je peux multiplier les interactions. Avec à chaque fois, alors c'est ça qui est délicat dans notre pensée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un outil, il a ses limites. Le tutorat entre pairs également est un outil qui a des limites considérable. L'expertise dite entre guillemets didactique de celui qui aide, et on rencontre bien ça dans tous les travaux sur l'aide au devoir notamment, où on se retrouve aussi avec des situations c'est pas des pères, mais c'est pas non plus des enseignants, quand ce sont des assistants d'éducation qui font de l'aide aux devoirs ou ce genre de choses. Et cette question de la compétence, de l'expertise dans ce qui est fait, est là aussi. Donc voilà, je voulais aller là-dessus, je pense qu'on en parlera pendant les deux jours. Et cette question de l'aménagement d'un cadre qui permet de travailler, d'un cadre étayant, me paraît essentiel, un cadre étayant dans lequel on peut avoir des ressources également. Alors, ça je l'ai assez développé, donc je ne reviendrai pas dessus, mais il me semble que de toute façon, si quand même là-dessus, il y a une réflexion de Philippe Mérieux qui me marque beaucoup, et à chaque fois que je vais en observation, je la retrouve, c'est le fait que de toute façon, il faut qu'on fasse le deuil qu'il y ait des bonnes solutions, et que être pédagogue, c'est un métier en tension. En tension entre des pôles contradictoires, potentiellement contradictoires, et qu'il nous faut faire... voilà. Ces tensions, il y en a beaucoup. Alors, celle que je vous donnais, guidage, accompagnement, je crois en fait que c'est une tension permanente dans nos pratiques et qu'on est obligé de travailler. Mais une autre tension à laquelle renvoie cette question de l'étayage, c'est celle qui va avec, pour moi, c'est celle du principe de liberté et du principe d'éducabilité. C'est-à-dire, dans toutes ces questions de l'étayage, ce qu'on appelle le principe d'éducabilité, je crois, on doit l'avoir à peu près en commun ici, c'est l'idée que, quelle que soit la situation d'un individu, on doit toujours faire quelque chose pour qu'il puisse apprendre. Et au nom de ce principe, on peut aussi, à un moment donné, aller dans des pratiques qui sont des pratiques relevant quasiment du dressage. C'est-à-dire faire apprendre au forceps, mais est-ce que ce serait apprendre en tout cas, faire passer des choses au forceps en niant complètement le fait que c'est le sujet à un moment donné qui est en capacité de décider s'il apprend. Et donc, il y a une dérive de ce côté-là. À l'opposé, on a le principe de liberté. C'est le principe de liberté qui part du principe qu'on n'apprend jamais à la place de quelqu'un. Et par conséquent, tant qu'un individu n'est pas lui en situation de vouloir apprendre, justement, aller trop sur le principe d'éducabilité, c'est le risque du gavage. Mais le risque du principe de liberté, c'est exactement l'inverse. C'est qu'on a des individus qui ne seront peut-être jamais en situation d'être mobilisés pour les apprentissages. Et là, quelle est la responsabilité de l'éducateur à ce moment-là? Ce qui renvoie à la phrase de Freinet, vous savez, on ne donne pas à boire un cheval qui n'a pas soif. Quand un cheval n'a pas soif, on peut toujours être tenté de changer l'eau du bassin, mais ce qui renvoie à la mobilisation. Mais aussi, ce que rajoutait à cette phrase souvent Philippe Mérieux, que j'aime bien, qui disait, mais le problème, c'est que le cheval, on est sûr qu'il aura soif un jour. Et effectivement, nous sommes, nous, professionnels, en face de ces tensions-là. Donc, l'étayage est à penser en fonction de tous ces éléments. Et c'est compliqué, finalement, ce qu'on nous demande de faire. On ne peut jamais avoir des pratiques parfaites par rapport à ça. Bien. Alors, il me reste, si j'ai bien compté, une dizaine de minutes pour essayer d'aller beaucoup plus sur ma deuxième partie. Mais avant, il faut quand même que j'explique que s'il y a une chose qui, malgré tout, est pensée, avec les formes et les limites que j'ai posées là, l'étayage, je crois qu'on a pensé pas mal de choses. Il me semble qu'il y a un absent de nos réflexions, très souvent, c'est le désétayage. Parce que si je prends l'étayage comme étant un appui permettant d'apprendre, dans la visée d'autonomisation, pour qu'un sujet puisse être, lui, en capacité d'apprendre à long terme, il faut aussi désétayer. Et quand on regarde nos temporalités ou nos aides, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que le désétayage est un relativement absent de nos réflexions. Ce qui pose des problèmes, notamment sur tous ces dispositifs de soutien ou d'aide spécialisée, où globalement on étaye des apprentissages d'élèves et ça tient peu ou prou quand il y a de l'étayage à côté. Mais le jour où il n'y a plus d'aide, et ça peut arriver quand il y a des fermetures de postes, ça peut arriver à plein de moments, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se produit? Et je crois que dans la réflexion sur l'étayage, il y a tout un travail à faire, et il est énorme, sur les conditions du désétayage. Et à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas énormément de choses, si ce n'est qu'on peut se dire qu'il faut un désétayage progressif. Mais là, nous avons pour moi un chantier aujourd'hui. Voilà. Bon.